courageux et courageuses qui nous rejoignent pour cette table ronde, puisque je crois, à moins de me tromper, que ça doit être la dernière de la journée, et en tout cas de ce week-end. Alors le thème qui nous est proposé aujourd'hui, c'est la magie au quotidien, avec quatre auteurs présents ici à cette tribune. Céline Guillaume, tout d'abord, Mélanie Fazi, à ma gauche, et à votre droite, troisième auteur, Franck Féric, tout au bout de la table, et puis le quatrième auteur, Anthelme Hautecorne, je prononce bien, j'espère.
Alors, je me permets une petite correction, excusez mon suédois, en fait c'est Anselme Hautecorne, mais l'erreur est fréquente.
Ah ah, c'est une faute de frappe. C'est Anselme ? On prononce Anselme ou c'est...
Là, je prononce comme un S en anglaise. Alors, pour les férus de racines patronymiques, ça signifie en fait protéger les dieux, le préfixe en, c'est en fait une référence à As, les divinités nordiques, et elle, Aum, la protection.
Donc on prononce Anselme. Parfait. Et bien après cette petite mise au point, c'est comme ça, on se fait un nom puis ensuite on se fait même un prénom. C'est ça, être écrivain. La magie au quotidien, alors, pour qu'on se comprenne bien, petite précision, il ne s'agit pas nécessairement de fantaisie. Autour de cette tribune, on a des auteurs qui sont des auteurs qui se qualifieraient plutôt d'auteurs de fantastique. Mélanie ne me démentira pas. Le plus simple, c'est d'entrer directement dans les textes. C'est donc ce qu'on va faire avec Mélanie Fazi. L'extrait que je vais vous lire est tiré de Notre-Dame aux écailles, un recueil de nouvelles de Mélanie qui a été réédité chez Folio SF. La première version est parue chez Brajeun.
Chez
Brajeun, ma mémoire est bonne. Il doit y avoir une pièce autour de nous, mais je n'en ai pas vu grand-chose. Un flot d'informations qu'il est trop tôt pour assembler. Pas le temps, pas encore. Quelques meubles frôlés dans ma course. Pour toute lumière, la lune qui se déverse par une fenêtre, éclaboussant les murs. Son reflet sur le bois, sur quelques surfaces luisantes. Mais je ne retiens que le plancher, le tapis, le coin du guéridon, je suis écorché l'épaule. Tu as léché le sang de l'éraflure. Partout, des odeurs de poussière, de laine et de bois, d'encens imprégnant l'air. Et par-dessus tout, la tienne. Près de nous, dans mon champ de vision, un cadre tombé à terre, contenant la photo d'un petit groupe d'humains hilares. Mais le décor, le vrai, nos deux corps mêlés, nous soufflent à l'unisson, qui en disent tellement plus que les mots. Voilà tout ce que je sais de cette maison, ta chaleur contre moi et en moi. Et le tremblement qui s'estompe pour céder la place à un autre en attente. Il y a bien eu, la porte refermée, une hésitation, un échange de regards et d'odeurs, conversation muette, imprégnée d'imminence. Mais la lune a tranché pour nous, instant suspendu, saut dans le vide. Nos mains pressées fouillaient déjà sous nos vêtements, se dépouillaient de tout avant que ça se produise. Le geste encore civilisé, les réflexes allaient suivre. Trop vite ou pas assez. Ta main, au creux de mes reins, semblait guetter l'autre chaleur. Ta peau, tes peaux contre la mienne. Désarroi sismique, ça vibre dans ma chair. L'heure de la mise à nu approche. Il n'est plus temps de faire marche arrière. Si on écoute bien le texte, si on repère les petits indices parsemés comme des petits cailloux par Mélanie Fazi, on sent bien qu'il va se produire quelque chose. On sent bien que ce corps à corps ne va pas tout à fait être un simple rapport sexuel classique d'un homme et d'une femme. Et justement, Mélanie, souvent dans vos textes, dans vos nouvelles en particulier, on passe comme par un frémissement du réel à l'irruption de l'imaginaire. Et c'est peut-être, au-delà de la qualité de l'écriture et de la respiration du texte, votre marque de fabrique. Pourquoi vous vous refusez en général aux effets extrêmement brutaux dans votre littérature ?
C'est pas tellement que je me refuse aux effets brutaux, c'est que je sais pas comment dire ça, vraiment pas mon fonctionnement. De la même manière, j'ai jamais été quelqu'un qui aime les choses qui sont grandioses, qui sont brillantes, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà les décors intimistes. Et en plus, j'aime bien ce petit basculement qui passe par des détails. Ce que je trouve de plus en plus amusant à faire, c'est on est dans le glissement de fantastique classique, c'est-à-dire on commence par le quotidien tel qu'on le connaît, le plus précis possible. Et on va amener un point de rupture. Mais souvent, je me surprends moi-même en relisant des textes, c'est d'apercevoir que les premiers indices ont été semés avant que le lecteur puisse s'en apercevoir. Et y compris dans le passage qu'on vient de lire, par exemple, il y a des petits détails. Je décris à un moment donné la lune qui, la lumière de la lune qui passe par la fenêtre, et c'est un élément essentiel du texte. Mais là, c'est décrit simplement comme faisant partie du décor. Et j'aime beaucoup justement amener cet effet progressivement. Et le moment qu'on s'aperçoit qu'on est en train de basculer, en réalité, on a déjà basculé depuis quelques paragraphes ou quelques phrases, mais on ne le savait pas encore. Moi, j'aime beaucoup toute cette ambiguïté, justement.
Est-ce que je me trompe, Mélanie, mais votre façon de traiter le fantastique, est-ce que finalement, tout en étant d'une grande modernité, est-ce qu'elle ne s'inscrit pas dans une tradition quand même classique du fantastique, y compris français ?
Moi, j'ai toujours eu l'impression que le fantastique que j'écris, de toute façon, c'est celui que je lisais adolescente, etc. Je sais que je n'ai rien inventé, quelque part. À la limite, j'ai proposé mes variations sur les thèmes classiques, etc. Je pense que si j'apporte des choses personnelles, c'est plus dans l'écriture, dans les autres thématiques. J'ai vraiment repris les motifs classiques, pour le coup. J'ai peut-être plus l'impression que mes livres ont été remarqués à un moment donné parce que c'est un moment où il y avait très peu de fantastique et que ça s'est peut-être plutôt distingué comme ça. Mais pour moi, c'est, je lisais Stephen King à l'adolescence et quelque part, ce que je fais n'est pas si différent de ça ou d'autres auteurs, en remontant effectivement jusqu'aux auteurs plus classiques. Pour moi, il y a une ligne, j'ai pas l'impression d'avoir réinventé quoi que ce soit, en fait. Apporter peut-être des variations personnelles, mais pas réinventer.
Là aussi, je me trompe, ou pour vous, le travail sur la langue, sur la phrase, sur le rythme, c'est quelque chose d'extrêmement important dans votre fantastique ?
C'est quelque chose que j'aime bien, même en tant qu'actrice, donc de toute façon, ça me parle. J'ai du mal à rentrer dans un texte si le me paraît plat, s'il ne m'accroche pas. Après, je trouve qu'en particulier dans le fantastique, et surtout quand on joue sur ce genre d'effet dont je parlais, les effets fantastiques, pour moi, sont aussi dans les phrases. Et on peut jouer sur des effets... Je pense à, par exemple, le texte, l'extrait qu'on lisait tout à l'heure, mais la description du décor et de cette scène, ce couple qui est en train de se déshabiller, etc., de se découvrir. Il y a un mot en particulier auquel je tenais, c'est quand il décrit le décor, la table, le tapis, etc., il y a une photo dans un cadre. Et c'est pas une photo de gens, c'est une photo d'humain. Et normalement, à ce stade, le lecteur s'arrête sur la phrase et dit « Bon, si la narratrice, qui a priori est tout à fait normale, nous parle d'humain, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est qu'elle-même n'est pas tout à fait humaine. » Et je pense qu'il faut. Enfin, moi, le fantastique marche encore mieux quand l'écriture est vraiment très précise sur ce genre de petits détails.
Le trouble dans le fantastique naît des indices semés.
Après, tout dépend. Il y a énormément de genres de fantastique. Mais si on fonctionne sur soit sur l'ambiguïté, soit ces effets progressifs, il faut qu'effectivement ce soit. Après, on peut jouer sur la surprise où d'un seul coup il se passe quelque chose et c'est un effet choc, mais c'est autre chose à ce moment-là.
Dernière semaine d'un reptile, Franck Féric, aux éditions du Riez. Là aussi, un petit extrait pour tout de suite être dans le vif du sujet. La radio réveille Julius en retard, sur une pop gnangnante jouée par une bande d'anglais à la mode. Comme après une gueule de bois carabinée, le sang pulse douloureusement entre ses tempes, alors qu'il se souvient comment la veille Bukowski l'a mis KO tout net. Habillé, et le café sur le gaz, il se voit dans le miroir de la salle de bain, pareil à une vieille éponge qui aurait récuré à sec une gamelle de rat cramé, avec son menton en friche, son long visage blême comme un cul de nonne, et sa bosse au milieu du front. Il se dit que s'il la peignait en rouge, elle ressemblerait presque à ça, la bosse de Bukowski, une sorte de troisième œil tout bouffi. Il essaie de se faire une tête plus présentable sans vraiment y parvenir, avale son café ébouilli, puis sort dans la rue déserte pour aller au boulot. Il est à présent 7h du matin et il est salement à la bourre. Mais dès qu'il pose le pied dehors, je lui sens que quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose qu'il ne parvient pas à cerner complètement. Comme un décalage presque imperceptible entre cette rue et celle qui était là hier, à la même heure. Peut-être est-ce la lumière, trop terne pour un ciel qui est pourtant aussi bleu qu'on peut l'être. Ou bien, dans le vrombissement sourd des moteurs des voitures qui semblent rouler comme sous une cloche de verre. Il retrouve sa voiture garée sur le trottoir, mais il la trouve bizarre, plus grande ou plus petite que dans son souvenir, à moins que ce ne soit la couleur ou la crasse collée au bas de la caisse qui n'est pas exactement comme d'habitude, mais il trouve quelque chose d'étranger dans cette voiture. Alors là aussi, effet tout simple, il est comme vous et moi, il va au boulot le matin, à moins que le boulot ça soit... La chambre du dessus sur l'ordinateur, mais il va au travail le matin et c'est la voiture qui a l'air bizarre. un objet vraiment dans notre société, complètement du quotidien. Alors là aussi, pour vous, Franck Ferry, quand vous vous lancez, on sait que vous avez écrit avant de la science-fiction, quand vous faites du fantastique, c'est à partir des objets les plus triviaux de notre quotidien que vous aimez faire de la bizarrerie, de l'inquiétude, du décalage.
Parce que pour moi, que ce soit la magie ou que ce soit le fantastique, c'est toujours une question de point de rupture et que l'endroit le plus sensible, placer un point de rupture, c'est où la banalité des choses se ressent le plus. C'est pas une facilité finalement, enfin on peut difficilement faire autrement pour faire un effet qui soit un petit peu sans être grossier, mais qui soit assez fort et sans y mettre d'éléments trop, enfin tout ce qui met de boules de feu ou choses comme ça, en tapant dans la banalité des choses, c'est là qu'on peut le plus facilement faire ressentir le point de rupture.
Le personnage de l'écrivain, de couverture, je reprenais le passage, je parle d'écrivain loser et solitaire. J'imagine que l'autobiographie est quand même pas tout à fait celle-là. Et pourquoi l'écrivain qui s'amuse à faire des nouvelles de fantastique a-t-il envie de mettre en scène ce cliché qu'on trouve aussi dans le polar, mais qui c'est intéressant de travailler sur les clichés, ce cliché de l'écrivain loser et solitaire.
Ce livre-là, c'est aussi un hommage à Bukowski, qui est un auteur que je préfère. Surtout ce passage-là, il est cité précisément au début de ce paragraphe. Maintenant, c'est un auteur qui, à partir du moment où je l'ai lu, j'ai pas écrit de la même manière, j'ai pas vu la littérature de la même manière, soit au niveau du style, soit au niveau même de la manière de percevoir les choses. Vraiment, il m'a énormément marqué. Donc, c'était plus un hommage que je voulais faire, un petit clin d'œil à M. Bukowski.
Tous les deux, vous faites de la nouvelle, vous écrivez aussi des romans, mais vous faites de la nouvelle. Est-ce que vous pensez que, justement, votre fantastique, qui est lié à ce que disait un peu le thème de notre rencontre, la magie du quotidien, est-ce que vous trouvez justement que la nouvelle fantastique, la nouvelle relativement brève, va bien avec ce type de climat?
Oui, parce que la nouvelle, pour que tout soit dit en très peu d'espace, on a très peu d'espace pour exprimer ce qu'on veut dire. Et puisque le fantastique, c'est justement concentré sur le point de rupture, c'est un instant très fugace. On peut s'étendre un petit peu sur les prémices, on peut s'étendre très brièvement sur ce qui se passe après. Mais ce qui intéresse réellement, c'est le moment où les choses basculent. C'est le point de rupture. C'est ça quand même qui est intéressant dans la nouvelle s'y prête idéalement.
Vous êtes d'accord, Mélanie Fazier, avec...
Je suis d'accord à 100%. Je repensais, je ne sais plus qui le dit ça, je crois que c'était Lisa Tuttle, qui est un auteur que j'adore, que j'ai traduit récemment, qui m'avait dit une fois une histoire de fantôme ou une histoire fantastique, une nouvelle fantastique, ça fonctionne comme un poème. Et je trouve, en y réfléchissant, je trouve que c'est assez juste dans le sens où un poème, si par exemple une syllabe est à côté, une rime tombe à côté, tout l'édifice se casse la figure quelque part. Moi, j'aime beaucoup cette vision de la nouvelle comme quelque chose qui doit être très précis, de la première phrase à la dernière phrase à chaque effet, qui est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire sur la longueur d'un roman, qui n'est pas forcément souhaitable de toute façon.
En règle générale, des genres comme la science-fiction, c'est la société qui est au cœur du roman, même si bien sûr il y a des personnages qui nous permettent de suivre un peu la découverte de ces univers. J'ai l'impression que dans vos nouvelles, généralement dans le fantastique, en tout cas celui que vous écrivez, bien sûr le décor, l'univers est important puisqu'on va voir des glissements qui vont se produire, mais tout ça se passe quand même beaucoup par les yeux de vos personnages, Mélanie.
Après, moi, il se trouve que c'est assez personnel, j'ai une facilité à écrire à la première personne. Je sais que beaucoup de gens trouvent l'exercice très difficile, moi ça paraît plus naturel, ne serait-ce que parce que du coup on adopte on va pas se disperser entre les points de vue de différents personnages et passer de l'un à l'autre de manière aléatoire et pas toujours très réussie. Et d'autre part, parce qu'en plus, en fantastique, quand on joue sur cette ambiguïté, il y a l'idée que de se poser la question, est-ce qu'on fait confiance ou pas à la personne qui parle? Alors, soit parce qu'on joue sur l'ambiguïté classique, comme dans un texte comme Le Hurlat, par exemple, est-ce que le narrateur est fou ou pas? Soit parce qu'on peut faire dire, on peut faire parler un personnage qui parle de manière très calme de quelque chose de complètement bizarre et introduire un décalage par ça aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, en fait. Le moment où on se pose la question, non pas est-ce que le narrateur est fou ou pas, mais se dire, il a quand même un point de vue... Enfin, ce personnage est bizarre, ou est-ce que c'est le monde qu'il décrit qui est bizarre, ou quelque chose ne va pas, mais où est-ce que ça se situe? dans quelle mesure je peux lui faire confiance. Je trouve que c'est un jeu qui est intéressant en plus.
Franck, vous avez la même vision des choses?
Oui, enfin, j'ai aussi pas mal de nouvelles qui j'écris plus facilement avec, en utilisant la première personne. Ça désinhibe aussi beaucoup l'écriture, la manière d'écrire les choses. On peut plus facilement se mettre dans la peau du personnage au moment où on écrit. On se met plus facilement dans ce qu'il ressent. Pour une fois, c'est sûrement une facilité. Enfin, pour moi, c'est plus une facilité.
Eh bien, on va découvrir un troisième extrait, un troisième auteur, Anselme Hochkorn. On va regarder un petit peu ce que donne votre nostalgie radioactive, puisque c'est les premiers mots du texte. La nouvelle s'intitule « Le buteau atomique ». Vos questions me gênent. Je n'aime guère les interrogatoires. Dernièrement, j'en ai suivi plus que mon compte. Alors finissons-en une bonne fois pour toutes, Doc. Je comprends que mon cas vous intrigue. Votre intérêt, tout médical envers moi, vous honore. Sans la curiosité de ces chercheurs, la science n'aurait jamais progressé d'un iota. De même, vous ne seriez probablement pas devenu le meilleur oncologue du pays sans une once de soif de savoir. C'est pourquoi je ne m'offusque pas que votre zèle a fouiné dans ma vie privée. Petite coquille qui voudra rectifier.
Complètement, oui.
Comme ça qu'on le repère, ça, la lecture. Qu'on rectifie quand on lit. Je reprends. C'est pourquoi je ne m'offusque pas que votre zèle a fouiné dans ma vie privée. Mieux, je vous ai réservé la primeur de mon vrai témoignage, y compris les éléments que j'ai tués aux enquêteurs, des abrutis et trois d'esprit. Vous, en revanche, Doc, vous m'avez sauvé la vie. En partie. J'entends régler cette dette aujourd'hui. Parlons franc. Mon infection vous interpelle, certes. Néanmoins, je crois deviner que c'est mon rétablissement miraculeux qui vous titille les neurones par-dessus tout. Encore que dans votre métier, on aime bien le terme « miracle ». Moi non plus, à dire vrai. Toutefois, il n'y a que les imbéciles pour ne pas changer d'avis. D'emblée, il faut que vous sachiez, Doc, je n'ignore pas que des dizaines de personnes souffrent du même mal qui m'a frappé. Je flaire bien que vous attendez de moi une piste, un indice sur la façon de les guérir. À ma façon, j'aurais bien une suggestion à vous faire. Je pourrais même commencer par là, vous donner le remède illico. Toutefois, si je agissais ainsi, il ne fait aucun doute que vous ne me croiriez pas. Pire, vous me déclareriez mûr pour l'asile ou une cure de désintox. Aussi, j'espère que vous me pardonnerez, mais je vais devoir vous servir la version longue. Car avant de vous livrer ma solution, d'abord faut-il que je vous convainque de son bien fondé. En guise d'amuse-gueule, je vais tout de même répondre à certaines de vos questions. Oui, je bois, je fume, je ne dis pas non à un petit pétard de temps en temps, et le seul sport que je pratique régulièrement, c'est le sexe sauvage. De mes partenaires fluctuants, dont j'ai perdu le compte avant mes 20 ans, je me rappelle dans bien des cas que la courbe d'un sang ou le frémissement d'un fessier joufflu. Je suis un homme volage, que voulez-vous? En littérature aussi, en scène, vous êtes un homme volage?
Alors, je salue ma fiancée au premier rang, Julie. Je suis très content que ce passage ait été lu pour elle. Je vous laisse imaginer un samedi matin à la maison. Mais en tout cas, c'était très bien lu. Premier élément. Ensuite, donc, deuxième élément, cette allégorie fessière, j'espère que tout le monde me la pardonnera, est un emprunt bien sûr éhonté à des proches, de Bukowski, inspiré Franck. Je suis un grand fan de des proches, pour j'apprécie justement l'aisance, sans prétendre égaler bien sûr Manuel Verbe. Voilà pour répondre à la question. Qui s'aime plus bouche.
Comment vous voyez le plus sérieusement le fantastique dans votre façon là aussi de mettre en scène ce passage? Le mystère qui surgit, cette magie dans le quotidien, là on est plutôt, tel que le texte démarre, on ne va pas raconter toute l'histoire, on est plutôt sur une piste quasi science-fictive au départ du texte. On pourrait en tout cas l'imaginer comme tel.
Et bien sûr, alors l'entrée en matière est extrêmement délicate, on a déjà évoqué auparavant les contraintes techniques de la nouvelle, interpeller le lecteur, créer très vite la nouvelle, pour moi repose vraiment sur le triptyque classique de la construction narrative, avec donc une tension initiale, dont j'abuse et peut-être surabuse, certains en feront la remarque, avec ces processus dilatoires, ce côté un peu mauvais garçon de mon narrateur, bien sûr, c'est une facilité, mais j'en ai besoin en même temps pour très vite entraîner le lecteur dans mon histoire, vers un climax, donc des révélations qui naturellement vont être de plus en plus importantes, de plus en plus grosses, qui s'empilent les unes sur les autres et qui ont besoin en même temps des révélations antérieures pour avoir quelques assises, et bien sûr ne pas rompre, ne pas faire basculer le lecteur dans l'incrédulité, et bien sûr l'amener vers le climax. Qui est, si je puis dire, sans passer pour un pervers, l'orgasme vraiment donc le point G de la nouvelle. Et tout ça doit être construit, donc tout en fait n'est qu'une sorte de vaste tremplin pour ménager mon effet final, avec bien sûr un effet maximal sur le lecteur.
Justement, les choses viennent doucement, peu à peu, c'est la narration qui permet de casser ce... De permettre cette suspension de l'incrédulité. Mais dans votre façon de faire de la littérature, est-ce que la chute est une chose importante dans la nouvelle pour vous ?
La chute est essentielle. Alors, c'est amusant, hier soir, j'ai encore regardé Prestige, par exemple, pour faire marquer de la magie. Je pense que la littérature est une forme de magie, une forme de mystification, un petit truc que d'autres. Le dernier effet est absolument essentiel. C'est avec lui qu'on quitte le public. C'est pour construire cet effet que tout le reste a été acheminé. Désolé de citer également Sonic Youth pour les fans de rock, mais la construction même d'un morceau de rock n'est peut-être pas très loin à ce niveau de la nouvelle. On est encore sur cette idée de crescendo pour arriver à un climax le plus, je ne dirais pas dévastateur, parce que comme Annie Fazi l'a cité, on peut aussi aller bien sûr dans la subtilité, et cette subtilité est souhaitable. On ne peut pas constamment avancer avec de gros effets comme je le fais moi-même dans ma nouvelle. J'essaie quand même par moments également de calmer le jeu et d'induire quand même un peu de subtilité, un peu d'humanité dans mon personnage, qui n'est pas qu'un gros dégueulasse sur pattes, auquel cas il n'y aurait aucune sympathie à suivre ce type de personnage, bien sûr. Je pense que chaque personnage est un amalgame d'aspects tendres, d'aspects absolument rebutants, et c'est justement cette confrontation qui crée la richesse du narrateur. Et je vais également trouver le lien avec le fantastique pour terminer. Je pense que le banal s'alimente du merveilleux, et le merveilleux ne saurait exister sans une once de banalité.
Eh bien, quatrième découverte, autre façon de traiter notre sujet, et puis justement là on est déjà, on va s'éloigner un petit peu du thème de départ, puisque d'abord on est dans le cadre d'un roman, donc déjà ça va changer par rapport à nos trois précédents écrivains, et là on va être plus dans un fantastique, ou une fantasy plutôt, plus classique, puisqu'on pourrait, selon, analyser le texte d'une façon ou d'une autre, entre fantastique et fantasy. Je vais m'arrêter au moment où, justement, on bascule plus dans une scène de description brutale, concrète, où on a un type d'imaginaire qui, là, est un peu différent. Mais bon, on va rentrer dans le sujet et on va tout de suite regarder un petit peu ce que ça donne. En cette fin de matinée d'automne, la forêt était encore toute humide de la dernière averse après cet été cognant, chaud et sec. Les trompes de l'affluent exposaient ces petites vagues laconiques, miroitantes de scamailleux céruléens, et répandaient ce prisme d'eau claire qui luisait au soleil. Le ruisseau, gonflé des roulis d'eau douce, débordait sur ses rives, et l'argile craquelée se gorgeait à plein poumon de ce flot bénéfique. Qu'elle était vive, cette contrée de puits endiablés. Les chênes se remplumaient de feuilles émeraudes, les bouleaux au tronc blanc immaculés étaient nimbés d'or, qu'ils renvoyaient au ciel encore gris, et les charmes s'enveloppaient de leurs ramées fripées puissantes sous le vent d'ouest déjà frisqué. La tramontane transportait ce timbre décoloré de machettes sanglantes, celle des bûcherons, qui taillaient démesurément l'arborescence à flanc de colline. À chaque tranchage, on distinguait le craquement des rouvres qui tombaient dans un fracas de branches brisées. Les grandes coupes de bois de l'automne avaient donc ainsi commencé. Je courais comme un chevreuil aux abois, m'arrêtais pour respirer, me saouler des émanations tantôt moussues, tantôt poivrées, que diffusait la tourbe des monts noirs. Caché sous un abri de branchage, je guettais plusieurs écureuils roux, vifs, méfiants, qui préparaient leur révolte hivernale, et admiraient le fût des zones citrues, si haut, troncs lisses, les frêles bouleaux, les fougères rougissantes. Voilà, tel était mon domaine, mon refuge, ma terre nourricière. Lorsque je me délectais de ces spectacles, il m'était inconcevable que ma vie fût ailleurs. C'était impossible, puisque j'aimais tant la nature, et elle me le rendait au centuple. Tout à coup, je sentis un vent glacé souffler sur ma nuque, et subitement, je redressai la tête. Le vent. Le vent s'était levé, me dis-je en fronçant les sourcils. Il n'y en avait pas auparavant. La bise ne pénétrait que rarement dans les fourrés épais comme ceux dans lesquels je me trouvais à présent. Tout au moins, elle n'avait pas cette intensité. Oppressé, affolé, une grande crainte s'empara de moi. Tout semblait s'être arrêté, tout. Une rafale secoua les branches, inclinant la cime des arbres. Un danger invisible, omniprésent, maléfique, avalait la tranquillité, et un cri effroyable se fit entendre, un cri perçant, un cri de douleur. Là, on va être moins dans ce fantastique du quotidien, on va être plus dans une tradition qui est à la fois celle du fantastique et de la fantaisie, quand l'irruption de la violence, l'irruption de scènes beaucoup plus décrites que certains de vos compagnons de tribune, c'est un choix, là, de dire les choses beaucoup plus. Je me suis arrêté juste au moment où on va voir une scène d'une extrême violence.
Tout d'abord, tout a été dit dans le passage. Je tenais à vous remercier d'avoir lu ce texte. J'ai appris à le redécouvrir. C'est très beau d'entendre ces mots lus par une autre personne. Et comme je disais, tout a été dit. J'essaie de faire entrer la nature dans notre quotidien, puisque pareil, il n'y a pas de magie. Pour moi, la nature, une odeur, le souffle du vent, le cri d'un oiseau, toute cette nature parle en elle-même et nous plonge dans une magie quotidienne. Donc la magie nous amène par le quotidien dans tout ce qui est irréel. Et pour répondre à la question, là je dresse le paysage pour amener justement à une action plus troublante et ça casse un petit peu l'histoire et ça mène le lecteur sur d'autres terres et ça l'emmène à vouloir savoir ce qui va se passer ensuite.
Je ne vais pas évidemment révéler la suite, mais la narratrice, qui est une jeune fille qui a échappé à un danger, qui est avec un vieil ermite, va en fait, à partir de cette scène, des aveux de son père adoptif quelque part, va être amenée à découvrir ses origines, l'histoire dont elle vient, et peut-être ce dont elle va être chargée ou contrainte de devoir s'occuper. Pourquoi vous choisissez dans ce roman, La Baronne des Monts Noirs, pourquoi vous choisissez justement de traiter à la fois un thème initiatique classique et au travers de la peur et de la violence?
Tout d'abord, le thème est le Moyen-Âge en premier lieu, une époque qui me fascine. Et j'essaie de m'évader par cette époque et de ne pas écrire dans notre quotidien parce que pour moi c'est mon mode d'évasion et ça me permet de cultiver mon imaginaire et de permettre au lecteur de voyager sur d'autres terres.
Franck Férix, alors là on est complètement dans un monde inverse. Moyen-Âge, un univers moyenâgeux qu'on pourrait qualifier de fantastique, plutôt de fantaisie dans ce domaine, et là vous êtes dans la modernité, dans la contemporanéité.
Oui, enfin, j'aime bien le Moyen-Âge aussi, maintenant j'ai plus de mal avec la nature, enfin j'aime bien les balades en forêt, tous ces trucs, mais la nature, enfin l'homme c'est l'homme quand même au lutant contre elle, sinon c'est resté perché dans les arbres, la nature, c'est la nature qui fait le cancer, c'est la nature qui fait toutes les maladies, enfin franchement la nature c'est quand même un peu une salope. Donc pour moi il n'y a pas trop de magie dans la nature, la nature c'est, enfin la magie est plus dans les mécanisme que l'homme a essayé de mettre en branle pour essayer de lutter contre elle. Finalement, il y a plus de magie dans l'homme que dans la nature. Mais je me suis dit, encore une fois, j'aime bien les balades en forêt.
Et tout de suite, on est dans des univers différents. C'est toujours intéressant de voir comment les auteurs, à partir de leur propre ressenti, viennent avoir deux discours complètement différents.
Mais la magie est quand même dans notre quotidien. Notre inconscient est tous les jours sollicité. De par des visuels, des choses comme ça, donc on est quand même baigné dans cette magie, les jeux de hasard, la voyance, la divination, le magnétisme. Pour le sens médical, par exemple, quand la médecine échoue sur certaines maladies, on a bien recours à des pratiques parallèles qui peuvent soulager l'être. Donc là, on plonge dans le fantastique, pour moi, dans la magie, puisqu'on en... Notre imaginaire se tourne vers des pratiques plus irrationnelles.
Marcel Hanchkamp, une voix pensive.
C'est une discussion que j'ai déjà eue avec plusieurs personnes. En fait. Ça tourne un peu paradoxal. En tant qu'auteur de fantastique, de ne pas du tout croire au fantastique. Je suis bien désolé. J'espère ne pas casser un mythe. Alors, je vais devoir, j'imagine, étayer cette assertion un petit peu iconoclaste dans cette table ronde. Plus on fait des recherches, en fait, et plus on s'aperçoit que les éléments du fantastique ont été recyclés au travers du temps. C'est une discussion que j'ai eue, un peu malgré moi, avec une personne qui était présente dans le public auparavant, sur les racines du fantastique. On revient quand même toujours aux mêmes éléments. Il faut me rappeler que cette littérature, qui est parfois perçue comme littérature de second genre, de seconde main, si je puis dire, est paradoxalement, historiquement, la plus ancienne. D'accord ? Si on retourne aux Védas, si on retourne aux récits bibliques et même bien antérieurs, sumériens, assyriens, toute littérature préhistoire était fantastique, logique d'explication du monde. Et à chaque fois, les phénomènes qui étaient expliqués, je reviens maintenant tout de même à notre thème, c'était le quotidien. Pourquoi le soleil il se lève à tel endroit? Pourquoi il se couche à tel endroit? Que va-t-on trouver en haut de cette montagne? Ce n'est pas pour rien que le mont Olympe, le Vésuve et autres sommets étaient systématiquement les séjours des dieux, parce qu'ils étaient inaccessibles. Et par conséquent, bien sûr, placer ces dieux dans des lieux inaccessibles était un moyen de les rendre hors d'atteinte des mortels et de les juger, bien sûr, bien au-dessus de la masse. Donc, par des raisonnements qui, à mon sens, sont plus d'une logique psychologique ou de l'ethnologie, on explique également le fantastique d'une façon peut-être un peu moins merveilleuse, un peu plus structurée, mais qui a le mérite également de pouvoir employer un vocabulaire symbolique avec donc ces montagnes, etc., ces divinités, je dirais d'une façon, une perspective d'être un peu plus historique également. Alors bien sûr, du coup, ça fait un petit peu, grâce à des dents, si je puis dire, lorsqu'on fait un amalgame entre ces constructions complètement imaginaires et parfois des dérives un peu sectaires comme les guérisons par apposition des mains et autres. Là, par contre, je me sens obligé de mettre un léger holà, si je puis dire, parce que justement, j'ai envie qu'on crée des dérives entre ce qui est avant tout de la manipulation de symboles, peut-être de l'écriture fantastique, et parfois également des dérives contemporaines, où là, par contre, on abuse de la crédulité des gens, tout simplement.
Vous insistez en quelque sorte, si je comprends bien, Sam, sur le rôle de la fiction, et la place précisément de la fiction.
Je vais faire bref tout de même, pas me briser la parole. Simplement, alors j'avais un peu documenté par rapport à la fantaisie urbaine qui ne me semblait pas être sans lien avec cette table ronde. Et en fait, ce qui ressortait souvent, c'était justement le fait qu'on utilisait des symboles ésotériques, des symboles religieux, etc., et j'en passe, pour en fait prendre du champ par rapport à la réalité contemporaine afin de mieux la critiquer. C'est justement cette logique, même le parallèle science-fiction nous semble effectivement très judicieux avec des œuvres comme par exemple Anticipation, V pour Vendetta et autres. Prend du recul par rapport au monde contemporain pour mieux justement décrire à travers soit fasciste, soit l'urbanisation galopante, soit l'indifférence, soit la froideur urbaine, et justement le fait de rajouter un peu de merveilleux, de légende dans cet asphalte un peu froid qu'on croise dans les villes, c'est un moyen de s'interroger sur un monde au contraire très réel, au moyen d'une simple symbolique, elle magique, tout simplement.
Je voulais juste dire que j'étais d'accord aussi avec ce qu'il disait, parce que quand on regarde les sigles publicitaires des partis politiques, ils essaient de rassembler leurs adhérents grâce à des sigles, c'est un peu ça,
manipulation.
Oui, voilà.
On parlait tout à l'heure, donc dans le thème de notre table ronde, de bousculer l'ordre des choses. Est-ce que justement pour vous, écrire du fantastique, Mélanie Fazi, ce n'est pas justement bousculer l'ordre des choses?
J'ai jamais réfléchi comme ça. Moi, je vois plutôt ça comme révéler quelque chose qui est sous la surface, ou révéler, utiliser une imagerie fantastique pour finalement parler de quelque chose qu'on n'arrive pas à dire autrement, etc. Je sais pas, j'entends des fois parler de fantastique justement comme des choses subversives ou autres. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'approche. C'est une des approches possibles, mais c'est pas, je sais pas. Je vois plutôt ça, moi, comme révélateur de quelque chose sous la surface, effectivement.
Gratter ce qu'il y a sous la peau.
En l'occurrence, ce qui pourrait renvoyer au texte que on parlait tout à l'heure.
C'est mettre au jour les choses.
Mettre au jour les choses, ou je sais pas trop quel autre nom lui donner. Moi, vraiment, enfin, c'est vraiment la première chose qui me vient, c'est ce qui est sous la surface.
Sans vouloir évidemment pousser en public à des révélations, quelle part dans le fantastique est tout ce que ça peut traîner comme peur, comme angoisse, qu'est-ce que vous y mettez de choses personnelles? Vous y mettez beaucoup de choses personnelles, ou c'est avant tout un exercice de style? Mélanie, vas-y.
Fatalement, il doit y avoir un peu des deux, mais je pense que si vraiment on veut interpeller les lecteurs sur des choses qui vont pas simplement les distraire, mais à un moment donné leur parler de quelque chose, il faut qu'il y ait un minimum de sincérité pour moi, et il faut un minimum que le lecteur puisse y reconnaître, en fait. Moi, je réfléchis. Enfin, j'étais en train de relire Stephen King récemment en essayant de mettre le doigt sur ce qui me frappe autant chez lui. Je me suis aperçue que ce qui me frappe, c'est qu'il arrive à parler de ses propres démons, à parler de choses. Il décrit par exemple l'Amérique dans laquelle il vit, donc il décrit vraiment son environnement à lui. Et il finit par être en train de finalement de raconter des histoires totalement universelles. Absolument n'importe qui, enfin, moi lisant ça adolescente en France, ça me parlait alors qu'il parlait d'un autre décor. Moi, ce qui me fascine dans le fantastique, c'est ça, notamment, c'est quand on réussit à voilà, forcément y mettre de soi, parce que je pense qu'on ne peut pas le faire honnêtement autrement, et en même temps parler à la personne qui est de l'autre côté de la page.
Pour vous aussi, Fantélie.
Je suis entièrement d'accord avec Mélanie. Pour moi, quand j'écris, c'est une part de moi-même, beaucoup... C'est pas qu'une figure de style, bien sûr, le texte, enjoliver les mots, faire de belles phrases, c'est une chose, mais donner beaucoup de soi, beaucoup de sa sincérité, c'est s'offrir au lecteur et c'est un cadeau.
On fait écrire aussi pour vous, l'écriture, c'est un acte de sincérité.
Ah bah, oui, si on n'était pas sincère, écrire c'est quand même quelque chose qui demande du temps, c'est pas quelque chose qui est. En tout cas, c'est pas facile, ça sort pas comme ça. C'est un peu de travail, et si on n'y met pas à la base tout ce qu'on peut de sincérité dedans, il faut faire autre chose, il faut faire quelque chose de plus rémunérateur, plus constructif, j'en sais rien, mais il faut pas faire ça.
Je vois que Anselme Schorn hoche la tête, tant pis, je vais user sa voix jusqu'à la dernière corde.
Sans pitié. Non, je vais faire de bref. En fait, du coup, je me sens très mal placé pour surabonder dans la volonté perfectionniste de Franck, qui effectivement souligne le temps de travail qu'on y consacre. Alors que le seul extrait qui était de moi-même comportait une coquille. Donc je me sens très très mal placé, d'accord. Mais effectivement, le seul élément que je mettrai ici, c'est que plus on avance dans l'écriture, quand on est jeune auteur, si vous voulez, j'ai pas mal de complexes par rapport à une première parution, justement par rapport à un manque de sincérité que j'ai pu avoir au départ, le fait qu'on patauge dans les différents effets, qu'on s'empêtre dans la technique, qu'on est influencé par ci, par ça, en fait, plus on avance, plus on est sur une logique, il y a le chemin entre... Je dirais pas l'artiste, je vais me faire retoquer. L'artiste et artisan, si je puis dire, en tout cas, on cherche à délivrer au lecteur un message sans phare, où la technique est effacée. La technique est mise uniquement au service de ce qu'on veut lui dire, en espérant toute sincérité que ça lui plaira, et qu'on lui livre ça dans le plus grand perfectionnisme possible. Et malheureusement, quand on arrive là, on doit faire quelques premières œuvres avec leurs petits défauts. J'espère que les lecteurs les trouveront touchants avant d'arriver finalement à délivrer le message qu'on souhaitait donner en première ligne.
Dans le cadre de votre roman, Céline Guillaume, la magie rentre dans le quotidien, mais c'est un quotidien qui n'est pas notre quotidien.
Qui n'est pas notre quotidien, mais j'ai essayé de transposer des faits qui se passent de nos jours dans une époque passée, puisque je m'alimente aussi de notre quotidien pour les dénoncer en quelque sorte dans un Moyen-Âge. Donc ce n'est pas si éloigné. Je m'alimente franchement de... tout ce qui se passe actuellement pour me révolter. Et j'essaie d'en faire quelque chose de poignant et de dénonciateur.
Franck Ferry, j'avais lu un de vos romans, hein, qui est chez le même éditeur d'ailleurs, où là vraiment vous nous emmeniez très loin. On était dans un monde tout à fait différent, futuriste, post-apocalyptique. Là par contre, votre fantastique, il est vraiment ancré, on se rappelle l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. Vraiment dans un univers qui pourrait être le nôtre demain matin, tranquillement, par rapport à vous. Pourquoi ce choix-là de ce fantastique extrêmement quotidien, contemporain, oui, encore une fois, la banalité du quotidien, et puis, brusquement, cette voiture a quand même l'air très louche.
Le roman dont vous parlez, qui est La Loi du désert, un des objectifs que j'avais en écrivant ça, c'est un roman qui est vraiment axé sur le voyage, sur être initiatique sur la route. Je voulais que ce soit le plus dépaysant possible, donc j'ai pas jugé bon d'incorporer ça dans un quotidien direct. Maintenant, quand je veux faire une nouvelle de fantastique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus facile, encore peut-être que c'est de chez pas avec cette facilité, mais c'est plus facile d'intégrer ça dans le quotidien. Parce que déjà quand on l'écrit, et aussi je pense pour le lecteur, les codes sont directement accessibles. Une voiture, ça reste une voiture. Quand on parle d'un dirigeable, on peut expliquer un petit peu comment ça fonctionne, on peut dire comment on sait comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus facile de dire pourquoi la voiture est là, quelque chose un petit peu plus curieux. Voilà.
Oui ? Vous avez ajouté quelque chose ?
Non, pas spécialement. J'attendais une question éventuellement, mais rien à rajouter.
Non, pas de question particulière, parce que là j'ai vraiment pitié, je crois que là ce serait de la cruauté mentale.
Non, vous pouvez,
je savais qu'il était plus fort que lui, même la voix cassée. C'est ça les écrivains quand ils ont parlé de leur travail.
Bah, en termes de travail, éventuellement, je ferai juste un parallèle avec L'âme de verre, qui n'a pas été cité, mais bon, effectivement, l'ouvrage est quand même assez volumineux. On trouve un extrait au peut-être de la gageure. L'âme de verre, bon, s'inscrit également dans cette démarche de du fantastique au quotidien. Justement, j'ai pris un grand plaisir à faire un amalgame, si je puis dire, entre les légendes urbaines qui sont des constructions, qui pour moi participent peut-être d'une volonté collective des gens en général de réenchanter les villes en recherchant de nouveaux mythes. Vous savez, ces légendes en disant il y a des plus bizarres dans tel HLM, telle route elle est hantée, ou encore le mythe de la Dame Blanche, etc., sont des mythes extrêmement anciens qui participent encore de cette pensée magique. Et j'ai voulu en fait donc, donner, si je puis dire, au lecteur de nouvelles raisons. Peut-être de crainte du bruit qu'on entend parfois le soir chez soi, de crainte peut-être les venelles nombreuses, tout bien sûr en puisant également aux racines des mythes sectes, qui est à même pour moi donc de réconcilier à la fois les cosmogonies les plus anciennes avec les plus modernes, tout simplement. Et je pense que la magie, nous en sommes les principaux instigateurs, pas nous les auteurs. Nous tous ici présents, nous créons notre magie au quotidien. Ça nous appartient. Et je pense que nous ne sommes là que pour vous donner un petit peu de matériel pour que vous soyez vous-même les acteurs de vos propres aventures. C'est ça le plus important, je crois.
Mélanie Fazi, on va approcher de la fin de notre rencontre et la fin de ces rencontres. Je crois que c'est vous qui allez terminer. Aspiration, lourde responsabilité. Comment, vous qui n'écrivez quasi pas de fantaisie, on est quelques-uns anthologistes à vous avoir mis au défi de le faire, mais pourquoi cet amour particulier du fantastique?
Cela dit, je l'ai déjà, quand des anthologistes l'ont fait, je l'ai fait. Mais effectivement, ben, l'exemple le plus flagrant, c'est l'an dernier, on m'a demandé pour l'anthologie imaginale, donc un texte sur le thème Reines et Dragons, en demandant de faire de la fantaisie. Et pour moi, c'est absolument inconcevable d'imaginer un autre monde ou autre. Donc j'ai questionné plus ou moins la limite de ce que je pouvais faire ou pas, et je l'ai situé dans le monde contemporain, avec des règles différentes. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas forcément intéressée, je ne suis pas douée pour simplement construire un monde, etc. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'univers, c'est l'humain, en fait. Et en plus, pour moi, c'est quasiment la même démarche que quand on est enfant et qu'on regarde les choses autour de nous et qu'on commence à rêvasser, tiens, si ce détail était ça, et si... C'est, pour moi, c'est une prolongation de ça, c'est juste... je sais pas, ça paraît beaucoup plus naturel. Je ne sais pas simplement que je tienne absolument à écrire ça, c'est que je ne sais pas faire autre chose, en fait.
Ben voilà, c'est peut-être une bonne réponse, mais ce que fait Mélanie et nos auteurs, ils le font bien. Alors, c'est l'occasion, si vous ne les connaissez pas encore, de découvrir... ce qu'ils racontent, ce qu'ils mettent en scène, leurs univers et la passion de la littérature qu'ils ont tous les quatre. Mélanie Fazi, Notre-Dame aux écailles, un recueil de nouvelles que j'aime tout particulièrement, aux éditions Folio SF. Franck Féric, Dernière semaine d'un reptile, aux éditions de Riez. Céline Guillaume, La baronne des monts noirs, chez Terre de Brume. Et puis l'amicale des jeteurs de sorts, avec donc 24 auteurs, 24 nouvelles, dont celle dans Salm Oshkorn, je vais y arriver, il me pardonnera. Anthologie dirigée par Thomas Duret et Christophe Thiel, chez Malpertuis. Évidemment, je devais terminer sur celle-ci, puisque c'est l'anthologie de Zone Franche, le festival qui nous a tous accueillis et qu'on remercie parce que derrière ça, il y a le travail de nos écrivains, il y a aussi tout le boulot de ceux qui organisent de telles manifestations. Merci pour vous.
Associer ta parole avec ce genre de débat.
Non, on peut
et
on peut
en parler. Il y a des gens qui seraient